Le journal de la rédaction avec vous, Thomas Schenner. Bonjour.
Bonjour à tous. Toujours des tensions en République démocratique du Congo à deux jours des élections générales. L'opposition lance pour aujourd'hui un appel à la grève dans le Nord Kivu. Le scrutin est reporté. Des massacres ont transformé la ville d'Oicha en ville fantôme.
Et puis la nouvelle affaire Benalla signifie-t-elle que la France-Afrique n'a jamais vraiment disparu? Nous avons posé la question à Vincent Hugues, journaliste à l'Express.
Tout le monde veut du gilet jaune. Le terme sous une forme ou une autre a été déposé 25 fois depuis le début du mouvement. Et puis en Norvège, ce sont les aurores boréales là, qui ont beaucoup de succès en cette saison. Nous serons sur place à la fin du journal.
Et puis notre question du jour ce matin, nous parlerons du recensement 2018 et nous nous demanderons si nous serons bientôt tous citadins.
C'est un scrutin qui a déjà été reporté trois fois. Les élections générales sont censées se tenir après-demain en République démocratique du Congo. Les Congolais vont notamment élire le successeur de Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans. L'opposition a lancé un appel à la grève générale, mais elle n'appelle pas au boycott malgré le report du scrutin, notamment dans le Nord Kivu, qui est un de ses bastions. Selon la commission électorale, il est impossible d'y organiser l'élection en raison des massacres perpétrés par un groupe venu d'Ouganda. Anthony Fouchard s'est rendu à Oicha, dans le nord-ouest du pays. Les habitants ont progressivement quitté la ville.
Vu du ciel, Oicha n'est plus qu'une succession de quartiers abandonnés et de rues désertiques. Ces dernières semaines, au moins 6 attaques ont eu lieu ici. 25 000 personnes se sont déplacées.
C'est ici qu'on avait tué les taximens. Vous voyez, c'est les chapeaux qu'ils portaient.
Au milieu de la route, le béret ensanglanté du chauffeur de taxi. Dans cette région, ce sont les rebelles ougandais, les ADF, qui sont pointés du doigt. Mais ils n'ont jamais revendiqué aucune attaque. Ils tuent et kidnappent. Noëlla Jarwaki fait partie de la société civile.
Nous avons déjà enregistré 88 enfants kidnappés, dont 56 qui sont des garçons et autres sont des filles. Ils prennent les enfants dans le cadre de recrutement forcé.
Depuis fin novembre, plus personne n'habite ici. Paul Mouindo, député de la région, fustige la passivité des autorités.
Les attaques se font simultanément à côté des positions militaires. Pourquoi simplement bénir tout le monde c'était? Tout le monde observe et lorsque c'est l'Ebola, on voit le monde entier se réveiller. Non, je lance un appel au monde entier, au secours pour bénir.
Dans le Nord Kivu, plusieurs milliers de casques bleus sont déployés sans que leur présence n'ait permis d'enrayer cette vague de massacres qui dure déjà depuis plusieurs années.
Le reportage d'Anthony Fouchard, la République démocratique du Congo, qui réclame également le départ sous 48 heures du représentant de l'Union européenne. Un moyen pour Kinshasa de répondre aux sanctions qui visent 14 officiels congolais, dont le dauphin de Joseph Kabila. À Madagascar, là, le candidat battu à l'élection présidentielle dépose plusieurs recours devant la haute cour constitutionnelle du pays. Selon les résultats officiels publiés hier, c'est Ange Rajoel qui remporte le scrutin avec 55,66% des voix. Rajoel qui a déjà été à la tête de Madagascar après le coup d'état de 2009. Le régime de Bachar al-Assad redevient petit à petit un interlocuteur pour les monarchies du Golfe. Depuis hier, le drapeau des Émirats arabes unis flotte à nouveau à Damas. Le pays a rouvert son ambassade dans la capitale syrienne. Bahreïn pourrait bientôt faire de même. Des ambassades qui avaient fermé les uns après les autres après le début de la guerre civile. Alors, comment faut-il l'analyser? Aouès Séniguer est professeur à Sciences Po Lyon.
Du côté des Émiriens, c'est une manière, me semble-t-il, d'affirmer encore plus ostensiblement une opposition virulente vis-à-vis de toute forme d'islam politique. Et même à l'époque où Bachar al-Assad avait été mis au banc de la communauté internationale et avait été stigmatisé par les monarchies du Golfe, les Émirats arabes unis n'ont jamais été très virulents vis-à-vis de Damas. C'était la dimension sanglante de la guerre civile qui avait été dénoncée à l'époque. Du côté, cette fois-ci, du régime de Damas, le fait que les Émirats arabes unis ouvrent une ambassade en Syrie est une forme de démonstration de la normalisation progressive du régime de Bachar al-Assad. Par ailleurs, il y a une autre interprétation possible. Dans le futur de la Syrie, les Émirats arabes unis cherchent probablement à se positionner dans l'éventualité, disons, d'une prise en compte des réparations qui auraient lieu en Syrie et donc décrocher des parts de marché, si je puis dire. Puis par ailleurs, intégrer la Syrie de cette manière, par le soft power, la diplomatie, c'est une manière, dans l'équation future, d'être un acteur qui compte aux yeux du régime syrien. Et puis enfin, il y a aussi sans doute, parce que les Émirats arabes unis ont d'excellentes relations avec la Russie, une manière peut-être de pacifier ses relations avec l'Iran.
Les migrants secourus il y a une semaine au large de la Libye par l'ONG Proactiva Open Arms doivent arriver ce matin en Espagne. Le navire qui les transporte va pouvoir débarquer dans le port de Crinavis, dans la baie de Gibraltar, après le refus de l'Italie et de Malte d'accueillir les réfugiés. Plus de 300 migrants sont à bord, originaires notamment de Somalie, du Nigeria ou encore du Mali. Aux États-Unis, les deux camps, démocrates et républicains, n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le budget. Résultat, le shutdown va se prolonger au moins jusqu'à la semaine prochaine. Les administrations fédérales sont toujours partiellement paralysées, ce qui veut dire que des centaines de milliers de fonctionnaires sont au chômage forcé.
7h05 sur France Culture, la suite du journal avec vous Thomas Schoener et le Quai d'Orsay qui demande à Alexandre Benalla de s'expliquer et qui n'exclut pas de possibles suites judiciaires.
Oui, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad mi-décembre. Selon le journal Le Monde, Alexandre Benalla a également rencontré des officiels au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Il s'agit de voyages d'affaires selon l'ex-chargé de mission. Un proche du chef de l'État tombé en disgrâce qui rencontre des chefs d'État. Il plaine sur cette nouvelle affaire Benalla. Un petit parfum de France-Afrique selon Vincent Hugeux, journaliste à l'Express et spécialiste du continent.
Ça fait à peu près 20 ans qu'on m'explique que la France-Afrique est en quelque sorte un fantasme de journaliste et qu'elle serait morte et enterrée. La France-Afrique est peut-être morte et enterrée, mais je peux vous dire que son cadavre bouge encore. Puisque la France-Afrique, au fond, mute, elle se modernise, elle change un peu de méthode. Mais là, pour le coup, j'émets beaucoup de doutes sur le fait que ce serait un archétype d'une France-Afrique 2.0 pour la raison suivante. L'intervention d'un Benalla sur le terrain tchadien aujourd'hui est totalement parasitaire. Les acteurs officiels de la politique extérieure de la France déploie toute l'énergie requise pour tenir à bout de gaffe un personnage aussi sulfureux. Les chefs d'État africains ont toujours été très friands de ces personnages parfois un peu sulfureux dont ils imaginent qu'ils ont gardé, à tort ou à raison d'ailleurs, une proximité avec le pouvoir exécutif. Tous les chefs d'État de la Ve République ont affirmé leur volonté farouche d'enterrer sans fleurs ni couronne cette fameuse France-Afrique. Il y a eu tellement d'ambiguïté, et l'on sait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, dans les décennies écoulées, que personne ne croit vraiment à la mort de cette France-Afrique. Donc prétendre que la seule volonté et le pouvoir performatif du verbe peut mettre fin à la France-Afrique, serait faire preuve de beaucoup de candeur.
Et le point central de cette affaire, ce sont les deux passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla. Le Quai d'Orsay a demandé à l'intéressé de les rendre après son départ de l'Élysée, mais n'a rien reçu pour le moment. Les maires commencent à faire remonter les revendications recueillies dans les cahiers de doléances. Un grand débat doit se tenir à partir du mois prochain suite au mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes auxquels certains font les yeux doux. Florian Philippot, par exemple, président des Patriotes et ancien du Front National, a annoncé hier qu'il avait déposé la marque « Les Gilets jaunes » à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Eh bien, il n'est pas le seul. L'INPI a reçu 25 demandes depuis le début du mouvement. Delphine Evenou.
Au singulier ou au pluriel, sobre ou décliné, fier d'être gilet jaune, je suis gilet jaune, parfois très explicite, liste gilet jaune élections européennes de 2019. Les demandes viennent de quartiers chics de Paris ou de petites communes de toute la France et émanent de promoteurs immobiliers, d'avocats, du directeur de cabinet de Florian Philippot du parti Les Patriotes, mais aussi de particuliers comme Jean, retraité, qui dit agir par militantisme.
J'ai choisi de déposer cette marque un certain nombre de services et produits de façon à ce que d'autres ne se l'accaparent pas avec des intentions que je ne connais pas aujourd'hui. Mais le but essentiel était de sécuriser.
Les demandes déposées sont en cours d'examen par l'INPI. Cela prend 4 à 5 mois en moyenne. Une fois la décision prise, quelles conséquences pour les gilets jaunes des ronds-points? Marie Rouleau-Dugage, responsable du département des marques.
Pour désigner le mouvement auquel ils appartiennent, il n'y a pas de problème puisqu'ils vont prendre cette expression dans son sens premier, qui est le mouvement populaire. En revanche, s'ils souhaitent vendre des produits qui font l'objet déjà d'un dépôt de marque gilet jaune, ils risquent de se mettre dans une situation d'atteinte des marques déjà déposées.
Quant au succès commercial d'une marque gilet jaune, rien n'est assuré. Les marques Benalla, Nuit Debout ou encore Phobie Administrative n'ont pas créé de millionnaires pour l'instant.
Les explications signées Delphine Evenou. Un peu de rêve pour terminer, ça fait partie des spectacles qui attirent tous les ans des milliers de touristes venus de toute la planète, les aurores boréales. Elles illuminent en ce moment les nuits polaires. Notre correspondant en Suède, je vous ai dit Norvège, hein, Florian tout à l'heure, c'était bien en Suède. Frédéric Faux, notre correspondant, s'est rendu dans le nord du pays, près de Kiruna, avec un groupe de photographes amateurs.
Voilà, les appareils photos sont réglés. Éteignez bien toutes vos lumières.
There's a really good one.
Voilà une belle aurore qui traverse l'horizon comme un arc-en-ciel.
Ces scènes de liesse nocturne se reproduisent tous les hivers autour du cercle polaire, où les aurores boréales sont les plus visibles. Nous sommes près de Kiruna, en Laponie suédoise, où selon l'office du tourisme local, les aurores sont devenues la raison numéro 1 de voyager dans la région. À Rovaniemi, en Finlande, la mode a commencé dans les années 2000, quand un entrepreneur a eu l'idée de construire des igloos avec des toits en verre pour observer le ciel. À Tromsø, en Norvège, plus de 80 tour opérateurs propose de découvrir cette féerie nocturne. Les aurores boréales sont le résultat de la collision entre les particules chargées émises par le soleil, le fameux vent solaire qui suit le champ magnétique terrestre jusqu'au pôle, et les atomes d'oxygène et d'hydrogène présents dans la haute atmosphère. En suivant l'activité du soleil, on peut donc prédire l'intensité des aurores boréales sur Terre. Mais pour Annette, une guide Sami appartenant au dernier peuple autochtone d'Europe, elles ont une toute autre origine.
Dans notre tradition, nous disons que ce sont les âmes des morts qui dansent dans le ciel. Certains disent que ce sont les âmes de ceux qui ont été victimes d'une mort violente.
Cette attraction touristique est en tout cas devenue une véritable manne pour tout le nord de la Scandinavie, où la saison des aurores débute dès la fin août jusqu'à la mi-avril.
Le reportage pour France Culture de Frédéric Faux en Laponie suédoise. Le temps, on va avoir du mal à voir des aurores boréales ici, c'est de la grisaille aujourd'hui, sauf dans le sud-ouest. Attention, dans le sud-est, pardon. Attention encore au brouillard givrant ce matin le long des Ardennes. Pour les températures, on va monter jusqu'à 15 degrés cet après-midi autour de la Méditerranée, de la douceur également en Bretagne et dans le sud-ouest, entre 3 et 7 degrés pour le reste du pays. Florent Delorme.
Merci Thomas Schoener, on vous retrouve à 7h30.